Chapitre 17. Billy and Clyde. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi, je m'en fous. C'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Serge Gainsbourg. Il faut qu'on abandonne la voiture. La Bugatti filait à toute allure sur une petite route étroite bordée d'eucalyptus. À première vue, le shérif avait renoncé à nous prendre en chasse. Mais on pouvait être certain qu'il avait donné l'alerte. Et manque de peau, la présence d'un camp de Marines à quelques kilomètres faisait de l'endroit une zone ultra protégée. Bref, on était mal barré. Soudain, un bruit sourd venu du ciel fit monter d'un cran nos inquiétudes. « C'est pour nous, ça ?» s'inquiéta Billy. Je baissai la vitre et, en penchant la tête, j'aperçus un hélicoptère de la police qui tournoyait au-dessus de la forêt. J'en ai bien peur. Excès de vitesse historique, insulte aux forces de l'ordre, délit de fuite, si le bureau du shérif avait décidé de sortir le grand jeu, nous risquions gros. Billy s'engouffra dans le premier chemin forestier et enfonça la Bugatti aussi loin que possible pour la camoufler. « La frontière n'est qu'à une quarantaine de kilomètres, » dis-je. « On essaiera de trouver une autre voiture à San Diego. » Elle ouvrit le coffre qui débordait de bagages. « Ça, c'est à vous. J'y ai mis quelques affaires, » dit-elle en me balançant une vieille Samsonite à coque rigide qui faillit m'envoyer au sol. Quant à elle, obligée de faire un choix, je la vis hésiter devant la montagne de valises remplies de vêtements et de chaussures qu'elle avait subtilisées dans l'armoire d'Aurore. « Bon, on ne va pas aller au bal tous les soirs, » dis-je pour la presser. Elle empoigna un grand sac en toile monogrammée ainsi qu'un beauty case argenté. Alors que je m'éloignais, elle me retint par le bras. « Attendez, il y a un cadeau pour vous sur le siège arrière. » Je levai un sourcil, redoutant une nouvelle entourloupe. Mais jetai néanmoins un rapide coup d'œil pour découvrir sous une serviette de plage la toile de Chagall. « Je me suis dit que vous deviez y tenir. » Je regardais Billy avec gratitude. Pour un peu, je l'aurais embrassé. Pelotonnés sur la banquette, les amants bleus donnaient l'impression de s'enlacer avec ferveur, tels deux étudiants lors d'un premier rendez-vous dans un drive-in. Comme toujours, la vue du tableau eut un effet bénéfique sur moi, me procurant un peu de sérénité et un serrement au cœur. Les amants étaient là, éternels, ancrés l'un à l'autre, et la force de leur lien agissait comme un baume réparateur. « C'est la première fois que je vous vois sourire, » me fit-elle remarquer. Je pris le tableau sous mon bras et nous détalâmes à travers les arbres. Chargés comme des mulets, transpirants et essoufflés, enfin surtout moi, nous dévalions talus sur talus dans l'espoir d'échapper à la ronde de l'hélico. Visiblement, celui-ci ne nous avait pas repérés, mais à intervalles réguliers, nous entendions son bourdonnement planer sur nous comme une menace.
« J'en peux plus, » dis-je en tirant la langue. « Qu'est-ce que vous avez mis dans cette valise? J'ai l'impression de transporter un coffre-fort. »«
Le sport, c'est pas trop votre truc non plus, » constata-t-elle en se tournant vers moi.
« Ces derniers temps, j'ai peut-être eu tendance à m'encrouter, » concédai-je. « Mais si vous aviez sauté d'un deuxième étage comme moi, vous feriez moins la maligne. »
Pieds nus, ses escarpins à la main, Billy se faufilait avec grâce entre les troncs d'arbres et les fourrés. Nous descendîmes un dernier raidillon qui nous mena jusqu'à une route goudronnée. Ce n'était pas une nationale, mais elle était tout de même assez large pour permettre la circulation dans les deux sens.
« Quelle direction, à votre avis ?» demanda-t-elle.
Je lâchai ma valise avec soulagement et posai les deux mains sur mes genoux pour reprendre mon souffle.
« J'en sais rien. Il n'y a pas marqué Google Maps sur mon front. »«
On pourrait essayer de faire du stop ?» proposa-t-elle en ignorant ma remarque.
« Chargé comme on est, personne ne nous prendra. »«
Personne ne vous prendra, » corrigea-t-elle. « Mais moi ?»
Elle s'accroupit pour farfouiller dans son sac et en sortit une nouvelle tenue. Sans faire de manière, elle déboutonna son jean qu'elle remplaça par un mini-shirt blanc et troqua sa jaquette contre une petite veste balmain bleu pâle à épaules larges et carrées.
« Dans moins de 10 minutes, nous serons dans une voiture. »
assura-t-elle en ajustant ses lunettes de soleil et en adoptant une démarche chaloupée. À nouveau, j'étais sidéré par cette dualité qu'elle portait en elle et qui la faisait passer en un clin d'œil d'une jeune femme espiègle et candide
à une vamp provocante et arrogante. Miss Camping Caravaning a dévalisé les boutiques de Rodeo Drive, lançais-je en lui emboîtant le pas. Miss Camping Caravaning, elle vous emmerde.
Quelques minutes s'étaient écoulées. Une vingtaine de voitures seulement nous avaient dépassés. Aucune ne s'était arrêtée. Nous avions croisé un premier panneau indiquant la proximité de San Dieguito Park, puis un deuxième à l'embranchement pour rejoindre la Nationale 5. Nous étions sur la bonne route, à défaut d'être dans le bon sens.
« Il faut traverser et faire du stop de l'autre côté, » dit-elle.
« Je ne veux pas vous froisser, mais on dirait que votre séduction a trouvé ses limites, non ?»«
Dans moins de 5 minutes, vous aurez les fesses sur un siège en cuir. Vous voulez parier ?»«
Tout ce que vous voulez. »«
Combien vous reste-t-il d'argent ?»«
Un peu plus de $700. »«
5 minutes, »
répéta-t-elle.
« Vous chronométrez ?»« Ah non, c'est vrai que vous n'avez plus de montre. »«
Et moi, qu'est-ce que vous me donnez si je gagne ?»
Elle éluda la question, redevenant d'un coup sérieuse et fataliste.
« Tom, il va falloir vendre le tableau. »
« C'est hors de question. »
« Dans ce cas, comment voulez-vous acheter une voiture et payer notre hébergement ?»«
Mais on est au milieu de nulle part. Un tableau de cette valeur, ça se négocie dans une salle de vente aux enchères, pas dans la première station d'essence venue. »
Elle fronça les sourcils et réfléchit une minute avant de proposer.
« Bon, peut-être pas le vendre, mais au moins le mettre en gage. »
Le mettre en gage ?
C'est un tableau de maître, pas la bague de ma grand-mère.
Elle haussa les épaules au moment où un vieux pick-up couleur rouille passait devant nous en se traînant. Il nous dépassa d'une bonne dizaine de mètres avant d'entreprendre une marche arrière.
« À boule le flouze !»
réclama-t-elle en souriant. À l'intérieur du taco, deux Mexicains, des horticulteurs qui dans la journée travaillaient au parc et rentraient tous les soirs à Playas de Rosarito, proposèrent de nous conduire à San Diego. Le plus vieux avait la virilité d'un Benicio del Toro qui aurait pris 30 ans et 30 kilos. Quant au plus jeune, il répondait au doux nom d'Esteban et
« On dirait le jardinier sexy de Desperate Housewives !»
jubila Billy qui le trouvait visiblement très à son goût.
« Señora, usted puede usar el asiento, pero el señor viajará en la cajuela. »
Qu'est-ce qu'il a dit là ? Demandai-je en pressentant une mauvaise nouvelle.
Il a dit que je pouvais monter devant, mais que vous alliez devoir vous contenter du coffre,
répondit-elle, ravie de me jouer ce mauvais tour. Vous m'aviez pourtant promis un siège en cuir, protestai-je en grimpant à l'arrière et en m'installant au milieu des outils et des sacs d'herbes sèches. I've got the black magic woman. Le son généreux et saturé de la guitare de Carlos Santana s'échappait de la fenêtre ouverte du pick-up. C'était un vrai tape-cul. Un vieux Chevrolet des années 1950 qu'on avait dû repeindre des dizaines de fois et dont le kilométrage avait sans doute déjà fait un tour complet de compteur. Assis sur une botte de paille, j'essuyais la poussière qui s'était accumulée sur le tableau et m'adressais directement aux amants bleus. « Écoutez, je suis désolé, mais il va falloir qu'on se sépare momentanément. » J'avais réfléchi à ce que m'avait dit Billy et je venais d'avoir une idée. L'année dernière, le magazine Vanity Fair m'avait demandé d'écrire une nouvelle pour son numéro de Noël. Le principe était de revisiter un classique de la littérature, une hérésie pour certains, et j'avais choisi de donner une version moderne de mon roman préféré de Balzac. Dans les premières lignes, on suivait ainsi le parcours d'une jeune héritière qui, après avoir dilapidé toute sa fortune, se faisait engager par un prêteur sur gage dans la boutique duquel elle trouvait une peau de chagrin, ayant le pouvoir d'exaucer les vœux de son propriétaire. Autant l'avouer, même s'il avait été apprécié des lecteurs, ce texte n'était pas ce que j'avais écrit de mieux. Mais le travail de documentation qu'il avait nécessité m'avait permis de rencontrer un personnage haut en couleur, Yoshida Mitsuko, le prêteur sur gage le plus influent de Californie. Au même titre que le cabinet de Sophia Schnabel, le petit commerce de Mitsuko était l'une des bonnes adresses que se passaient les beautiful people du Triangle d'Or de Los Angeles. À Hollywood, comme ailleurs, le besoin de liquidité pressait parfois les plus nantis à se délester en urgence de certaines de leurs folies et, sur la vingtaine de prêteurs sur gage de Beverly Hills, Yoshida Mitsuko était le préféré de la clientèle huppée. Grâce à l'appui de Vanity Fair, j'avais pu le rencontrer dans son échoppe près de Rodeo Drive. Il se surnommait lui-même avec fierté le prêteur sur gage des stars. Il n'avait pas hésité à tapisser les murs de son bureau de photos où il prenait la pose à côté de vedettes plus embarrassées qu'honorées d'être ainsi prises en flagrant délit de revers de fortune. Véritable caverne d'Ali Baba, son dépôt regorgeait de trésors hétéroclites. Je me souvenais d'y avoir vu le piano à queue d'une chanteuse de jazz, la batte de baseball fétiche du capitaine des Dodgers, un magnum de Dom Pérignon 1996, un tableau de Magritte, la Rolls-Royce customisée d'un rappeur, la Harley d'un crooner, plusieurs caisses de moutons Rothschild 1945 et, malgré l'interdiction de l'Académie des Oscars, la petite statuette dorée d'un acteur mythique dont je tairai le nom. Je consultai mon portable. Je ne pouvais toujours pas passer d'appel, mais j'avais encore accès à mon carnet d'adresses et je retrouvais facilement le numéro de Mitsuko. Je me penchai alors vers l'avant et criai quelques mots à Billy.
« Vous voulez bien demander à votre nouveau copain l'autorisation d'utiliser son téléphone ?»
Elle parlementa un moment avec le jardinier, puis
« Esteban est d'accord, mais ce sera $50 !»
Sans perdre de temps à négocier, je lui tendis un billet en échange d'un vieux Nokia des années 1990. Je regardai le portable avec nostalgie. Moche, lourd, terne, sans appareil photo ni wifi, mais lui, au moins, il fonctionnait. Mitsuko décrocha dès la première sonnerie. Tom Boyd à l'appareil.
« Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon ami ?»
Sans que je sache trop pourquoi, il m'avait plutôt à la bonne. Dans mon texte, j'avais pourtant dressé de lui un portrait peu ragoûtant. Mais loin de lui déplaire, cet éclairage artistique lui avait, paraît-il, donné une certaine aura, ce dont il m'avait remercié en m'envoyant une édition originale de « In Cold Blood », signée de la main de Truman Capote. Je m'enquis poliment de ses nouvelles, et il m'avoua qu'avec la récession et la chute de la bourse, jamais son commerce n'avait été aussi florissant. Il avait déjà ouvert un deuxième magasin à San Francisco et projetait d'en créer un troisième à Santa Barbara.
Je vois débarquer des médecins, des dentistes et des avocats qui m'apportent leur Lexus, leur collection de clubs de golf ou le Vison de leur femme parce qu'ils ne parviennent plus à régler leurs factures. Mais tu m'appelles sûrement pour une bonne raison. Tu as quelque chose à me proposer, n'est-ce pas ?
Je lui parlai de mon Chagall, mais il ne me prêta qu'un intérêt poli.
Le marché de l'art n'est pas encore sorti de la crise. Passe me voir demain et je verrai ce que je peux faire.
Je lui expliquai que je ne pouvais pas attendre demain, que j'étais à San Diego et que j'avais besoin de cash dans les 2 heures.
Je suppose qu'on vient aussi de te couper ton téléphone,
devina-t-il.
Je n'ai pas reconnu ton numéro, Tom. Et avec le nombre de langues de pute qui gravitent dans cette ville, tout se sait très vite ici.
Et qu'est-ce qu'il se raconte ?
Que tu es dans le trou. Et que tu passes plus de temps à bouffer des cachetons qu'à écrire ton nouveau roman.
Mon silence valait toutes les réponses. À l'autre bout du fil, je l'entendais néanmoins pianoter sur son ordinateur portable, et je devinais qu'il se renseignait sur la cote de Chagall et le montant atteint par ses toiles lors des dernières ventes aux enchères.
Pour le téléphone, je peux faire rétablir ta ligne dans l'heure qui suit,
me proposa-t-il spontanément.
Tu es chez TTA, n'est-ce pas ? Ça te coûtera $2000.
Avant même que je donne mon quitus, j'entendis le bruit d'un mail qui partait de sa messagerie. Si Sophia tenait les gens par leurs secrets, Mitsuko les tenait par leur portefeuille.
Quant au tableau, je t'en propose $30,000.
Tu plaisantes, j'espère. Il vaut au moins 20 fois plus.
À mon avis, il vaudra peut-être même 40 fois plus chez Sotheby's à New York, dans 2 ou 3 ans, lorsque les nouveaux Russes auront retrouvé l'envie de faire chauffer leur black card. Mais si tu veux voir la couleur de l'argent dès ce soir et que tu enlèves la commission astronomique que je vais devoir verser à ma confrère de San Diego, je ne peux t'en donner que $28,000.
Tu viens de me dire 30 000 ?
Moins les 2 000 pour établir ta ligne. Et encore, à condition que tu suives scrupuleusement ce que je vais t'indiquer.
Avais-je vraiment le choix ? Je me rassurais en me disant que j'avais 4 mois pour rembourser la somme, augmenter des 5% d'intérêt et reprendre ainsi possession de mon bien. Je n'étais pas sûr d'y arriver, mais c'était un risque à courir.
Je t'envoie la marche à suivre sur ton téléphone,
termina Mitsuko.
Oh, et à propos, dis à ton copain Milo qu'il n'a plus que quelques jours pour venir récupérer son saxo.
Je raccrochai et rendis à Esteban son téléphone de collection au moment où nous pénétrions vraiment dans la ville. Le soleil commençait sa descente vers l'horizon. San Diego était belle, baignée d'une lumière rose et orangée, qui rappelait la proximité du Mexique. Billy profita d'un feu rouge pour quitter son siège et venir me retrouver à l'arrière.
Brrr, ça caille ?
Dit-elle en se frottant les jambes.
Effectivement, dans cette tenue. Elle agita une page de bloc-notes dans ma direction.
Ils m'ont donné l'adresse d'un de leurs amis garagistes qui pourra peut-être nous trouver une voiture. Et vous, ça avance ?
Je regardais l'écran de mon portable. Comme par magie, je pouvais à nouveau passer des appels. Et un SMS de Mitsuko m'enjoignait d'utiliser l'appareil photo intégré à mon téléphone. Avec l'aide de Billy, je mitraillais donc le tableau sous toutes ses coutures, n'oubliant pas de faire des gros plans sur le certificat d'authenticité collé au dos de la toile. Ensuite, grâce à une application téléchargée en quelques secondes, chacune des photos fut automatiquement datée, cryptée et géolocalisée avant d'être envoyée sur un serveur sécurisé. À en croire Mitsuko, ce marquage leur donnait valeur de preuve devant les tribunaux et permettait de les opposer à des tiers lors d'un éventuel procès. Cette opération ne nous prit pas 10 minutes. Et lorsque le pick-up nous déposa à la gare centrale, nous avions déjà reçu un message de confirmation du prêteur sur gage, nous donnant l'adresse d'une confrère chez qui déposait le tableau en échange des $28,000. J'aidai Billy à descendre sur le trottoir, puis à récupérer nos bagages avant de remercier les deux horticulteurs pour leur aide.
Si tu reviens dans le coin, tu me téléphones, d'accord ?
Fit Esteban en espagnol, en donnant à la jeune femme une accolade un peu trop appuyée.
Si, si,
dit-elle en se passant la main dans les cheveux, comme dans un geste ultime de coquetterie.
Qu'est-ce qu'il vous a dit, là ? Rien. Il nous souhaite juste un bon voyage.
C'est ça, foutez-vous de moi,
dis-je en prenant la file pour accéder à un taxi. Elle me fit un sourire complice qui m'incita à lui promettre. En tout cas ce soir, si tout va bien, c'est avec moi que vous mangerez des quesadillas et du chili con carne. L'évocation de la nourriture fut suffisante pour faire tourner son moulin à paroles. Mais ce qui m'horripilait il y a encore quelques heures sonnait à présent à mes oreilles comme une musique joviale et amicale.
« Et les enchiladas, vous connaissez les enchiladas ? »
s'exclama-t'elle.
« Moi j'adore ça, surtout au poulet, lorsqu'elles sont bien gratinées. Mais vous savez qu'on peut aussi les préparer avec du porc ou des crevettes, hein ? Par contre, les nachos, barc, très peu pour moi. Et les escamoles, vous n'en avez jamais goûté ? Bon, alors, il faudra qu'on en trouve. Figurez-vous que ce sont des larves de fourmis. C'est super méga raffiné, à tel point qu'on les appelle parfois du caviar d'insectes. Bizarre, hein ? Moi, j'en ai mangé une fois. C'était lors d'un voyage entre copines.